Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bip Bip. Je suis Alexandre Popiolek, doctorant en psychologie sociale sur le sujet de l'impact de la relation de confiance dans la santé et fondateur d'Empathia, mon entreprise de recherche, conseil et formation. Dans ce podcast, j'explique comment je réalise et finance ma thèse, construis mon activité et avance sur mon développement personnel. Pour en savoir plus, je vous laisse écouter les épisodes 0 des précédentes saisons et nous allons maintenant pouvoir commencer. Dans la lignée de cette saison 4, une idée rapide, je crois, à vous transmettre cette semaine, qui est directement compréhensible dans le titre. Non, d'ailleurs, je n'ai pas encore décidé du titre que je vais donner à l'épisode. Justement, c'est quelque chose qui est facilité en ce moment. C'est que, étant donné que je fais un épisode par podcast, eh bien, c'est plus facile de déterminer le titre. Et ça me permet, moi, d'être plus clair sur ce que j'ai envie de transmettre. Même généralement, je pense d'abord au titre et ensuite, je sais ce que je veux mettre derrière. Mais là, je ne suis pas sûr de comment je veux le tourner. Dans ma tête, c'est le même sujet, mais j'ai deux titres accrocheurs que j'ai en tête. Donc, on verra comment vous rentrerez dans ce sujet-là. Mais je vais commencer directement par ce que je sous-entendais par le premier titre que je ne vais pas vous donner parce que je vous laisserai la liberté de chercher et de deviner quels pouvaient être les différents titres que j'avais prévu de faire. Alors, je pense que ce n'est pas un podcast très long. Je sais que je dis ça à chaque fois. Mais cette fois-ci, j'ai quelque chose que je trouve super intéressant à vous transmettre, mais je n'ai pas une demi-heure à dire sur le sujet normalement, même si vous commencez à me connaître. Peut-être que je vais trouver un angle et que je vais partir. Dans tous les cas, c'est plus vraiment le temps qui compte, c'est essayer de transmettre quelque chose qui me fait plaisir de vous transmettre. Alors, pourquoi l'épisode va être court, ou en tout cas pourquoi j'ai pas beaucoup d'idées cette semaine, c'est parce que il s'est passé beaucoup de choses, mais je ne peux rien dire. Voilà, bienvenue dans mon podcast de Building Public où je commence à vous dire de moins en moins de choses. En fait, je vais commencer par la fin. Ce que j'ai avancé sur plein de moyens d'accompagnement, comme je vous l'ai dit la semaine dernière. J'ai pas envie de vous parler tout de suite de ce qu'on s'est dit, parce que déjà, il y a des choses qui sont assez personnelles, assez pas encore contractuelles, enfin, dans ma discussion avec les gens, et j'ai pas envie de vous le transmettre. Et l'autre grande avancée de cette semaine, c'est que j'ai rédigé mon projet de thèse. Donc, j'ai envie de vous raconter quelque chose autour de ce projet de thèse et de le tirer sur un avis, une position que j'ai envie de vous transmettre. Par contre, j'aurais adoré vous partager mon projet de thèse, mais en fait, j'ai pas envie de le faire pour des raisons de confidentialité de mes hypothèses et de mes idées, parce que je commence enfin à avoir quelque chose de construit et je suis assez loin de pouvoir prouver ce que je dis, je vais mettre des années, donc là, on est quand même à une phase où on peut voler mes idées. On me dit quand même que ça arrive de plus en plus, on m'a remis en tête le fait que ça existait, autant dans le business que dans la recherche. Et voilà, je préfère pour l'instant le garder pour moi et avancer étape par étape sur mon explicitation de mes idées sur la confiance. Et je vous transmettrai plutôt mes idées quand j'aurai publié des articles. Alors, en parlant de publication d'articles, c'est quelque chose que je n'avais pas prévu. Donc voilà, on est de retour dans un épisode qui va durer une heure alors que je disais que j'avais rien à dire. Mais en fait, mon premier article est sorti. Mon premier article en co-auteur. C'est pas un sujet sur lequel je suis expert. Moi, j'ai aidé pour les statistiques et pour l'interprétation, pour faire de la lexicométrie. Donc, j'ai aidé à analyser des contenus d'entretien, à en sortir des thématiques et à interpréter avec ma directrice de thèse, Sophie Bergeau, je peux citer les noms parce que dans tous les cas, c'est retraçable, qui voilà, m'avait demandé un coup de main pour les analyses stats et qui m'a mis en co-auteur, donc dans la place la moins importante d'un article, ce qui est honnête, hein, c'est pas mes thématiques, moi j'ai essayé que pour un bout, donc c'est même très, très honnête de me mettre sans me mettre dans une place qui est importante. Pour ceux qui ne savent pas d'ailleurs, aparté, mais les places des auteurs sont importantes dans la recherche. Et donc, généralement, quand on écrit nous-mêmes l'intégralité ou une grosse partie de l'article, on est en premier auteur. Quand on est un peu directeur, qu'on gère ou qu'on finance depuis longtemps une étude, on est plutôt en dernier auteur. Le deuxième, et ensuite, il y a un ordre d'importance, c'est-à-dire que plus on est au centre, moins on est important. Donc l'avant-dernière hauteur peut être important et le deuxième peut être important. Et ensuite, bon, s'il y en a cinq, en gros, la place la moins importante, c'est celle du milieu. Là, dans cet article, on est quatre hauteurs. Il n'est pas publié encore, par contre, il a passé toutes les phases de validation. J'ai signé le fait qu'ils avaient le droit de publier avec mon nom dessus, etc. Donc il sortira dans quelques semaines. Je ne sais pas en fait. Il sortira dans quelques jours, quelques semaines. Et voilà, c'est ma première participation officielle scientifique, ma première rentrée dans le monde de la science. Je vais voir dans quelle mesure je vais le promouvoir sur les réseaux, notamment LinkedIn, parce que je vais me confronter à des freins qui sont d'utiliser la publication d'un article comme une mise en valeur commerciale et marketing. Et étant donné que je ne suis pas premier auteur, j'ai pas envie de m'approprier ce travail. Mais c'est vrai que de vous à moi, j'aimerais bien en profiter pour dire, ça y est, je suis capable de participer à une recherche scientifique qui aboutit à un article. Et en plus, je l'ai fait pour certains types de statistiques. Donc voilà, si vous avez besoin de faire de la lexicométrie, n'hésitez pas à m'appeler. C'est un post LinkedIn que j'aimerais bien faire. Mais que je ne vais pas faire en attendant déjà que l'article soit sorti et qu'il y ait validation peut-être même de tous les co-auteurs parce que c'est quand même m'approprier un travail. Moi, je trouve que c'est pas loin de ma limite éthique. Après, si tout le monde est d'accord, eh bien, la limite éthique sera là. Mais en tout cas, le faire sans demander, je trouverais ça un petit peu limite. Voilà pour l'aparté. Ça, c'est un sujet que je ne vais pas mettre dans le titre parce que j'ai arrêté de faire des titres à rallonge avec les sujets. On va maintenant rentrer dans le sujet général qui est que j'ai rédigé mon projet de thèse. J'en suis très heureux et j'ai envie de vous expliquer un peu ce qui s'est passé et ce que ça me permet de ressentir. En fait, j'ai eu, depuis que je suis rentré de Martinique, donc maintenant à peu près 3 semaines, oh, quasiment un mois, je suis parti il y a un mois et je suis revenu il y a 3 semaines, j'ai depuis la Martinique du stress qui est revenu. Donc maintenant, ceux qui écoutent assidûment savent que le stress est un sujet chez moi. J'ai du stress qui est revenu tous les matins. Je me réveillais avec la boule au ventre tous les matins depuis 3 semaines. Et sans savoir pourquoi, je ne sais même pas encore si c'est fini, si j'ai compris. J'ai beaucoup d'arguments et j'ai beaucoup d'idées surtout sur les raisons de ce stress. Mais il y en a une qui m'a frappé et j'ai le sentiment que c'était ça. Donc voilà, je vais juste vous raconter mon expérience avec la rédaction de ce projet de thèse. Comme vous le savez, ça fait un peu plus d'un an et demi que je suis inscrit en thèse, beaucoup plus longtemps que je fais des recherches sur mon sujet. Et depuis ce temps-là, je n'ai pas rédigé quelque chose que des gens font avant moi, hein, mais c'est pas grave. J'ai compris que maintenant chacun suivait son parcours. Je n'ai pas écrit depuis ce temps-là de projet de thèse, c'est-à-dire une petite introduction thématique et potentiellement un axe 1, un axe 2, un axe 3. Donc un axe, c'est voilà, on va d'abord commencer par explorer ceci, puis explorer cela. On va le faire grâce à une étude qui ressemble à ça, puis une étude qui ressemble à ça. Voilà, essayer de cadrer dans un ordre cohérent et chronologique de quelle est la grande idée, la grande thèse que j'ai envie de défendre. En fait, j'avais beaucoup d'idées. C'était même un problème, un peu trop d'idées, mais ça me manquait de blocs cohérents de ce que j'ai envie de faire. À chaque fois, j'arrivais à trouver des blocs cohérents, mais sans réussir à le coucher sur le papier. Et faut savoir que je pense que j'étais dans le dispositif de plus j'en sais, moins j'en sais. Et donc, quand on rentre juste dans une thématique, peut-être c'est possible de dégager un plan 1, 2, 3, mais quand ça fait des années qu'on lit sur le sujet et qu'on se dit là, il faut que je trouve parmi ce nuage d'idées et de choses que j'ai envie de faire, quels sont les quatre points généraux qui peuvent ressembler à un plan chronologique pour définir mon sujet de thèse, et ben c'est dur à faire. Et donc là, ce que j'ai compris, c'est que je crois que mon corps trouvait ça dur avant que ma tête le comprenne. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que c'était ça la raison de mon stress. Parce que je m'étais dit, et je l'avais noté sur mon agenda, et puis ça va sur là où j'en suis, enfin ce que j'avais prévu. Là, j'ai un peu moins de projets du côté entrepreneuriat. ce qui fait que ça me laisse un peu plus de temps pour la thèse. Et donc, je m'étais dit, OK, là, ce sera le temps d'écrire mon sujet de thèse, mon projet de thèse. Donc, c'est un document qui fait normalement quelques pages où on explique globalement, on dessine notre quête théorique rapidement et on décrit les étapes et le gros sujet qu'on aimerait défendre et les sous-sujets qui rentrent dans ce gros sujet. Et en fait, j'ai eu plus d'une semaine et demie de bugs, de flemme et de procrastination. Suite à cette envie d'écrire le projet de thèse, et sans vraiment comprendre pourquoi, en fait, c'était pas assez disponible dans mon esprit de savoir que le problème était le sujet de thèse. Mais je m'en suis rendu compte quand, seulement quelques jours avant prendre un rendez-vous où je devais exposer mon projet de thèse à mon encadrement de thèse, je me suis mis à stresser d'autant plus. À quasiment avoir les larmes aux yeux avant d'écrire le projet. Et je me suis dit, OK, il y a quelque chose de bizarre autour de ce sujet. Et en fait, j'ai compris que cette rédaction de projet de thèse me ramenait à la vie d'avant, à la vie d'il y a 6 mois. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas, je vous laisse écouter l'épisode 0. Je ne vais pas non plus expliquer tous mes problèmes à chaque épisode, comme ça, seuls les vrais qui écoutent tous les épisodes connaîtront le tout. Mais ça m'a ramené à une époque où j'allais moins bien. Et finalement, c'était le dernier moment où je travaillais vraiment sur ma thèse. Et je crois que toutes mes émotions sont revenues à ce moment-là. Et il y a eu quelque chose d'extrêmement cathartique de ressortir des émotions. Et donc, j'ai vraiment vécu ce truc pour lequel j'avais limite tendance à me moquer des écrivains qui ressortent des choses de leur trip et qui finissent par avoir le sang glacé à force d'écrire ou stressé, sangloter en écrivant. Et ben en fait, ça m'est quasiment arrivé. J'ai fondu en larmes à la fin de la rédaction de mon projet de thèse parce que je crois que c'était déjà tellement difficile intellectuellement de synthétiser, de trouver une cohérence dans plein de choses que je pensais depuis quasiment 3-4 ans. Mais aussi de lâcher les émotions que j'avais associées à ce grand sujet qu'est la thèse dans ma vie. C'était très dur, mais plus j'avançais, moins je stressais. Et puis à la fin, quand j'ai eu quelque chose d'avancé qui me satisfaisait, j'ai fondu en larmes et je me suis dit, OK, il y avait bien un problème autour de cette thèse. Je pense que ceux qui me connaissent et qui écoutent souvent le podcast le sentaient, hein, que la thèse, c'était un sujet, mais finalement, je comprends beaucoup mieux que c'est un sujet pour beaucoup de gens et je comprends mieux en quoi c'est une aventure vraiment particulière. Encore une fois, c'est mon trajet, hein. Je sais qu'il y en a potentiellement à qui on a proposé un projet de thèse pour qui la constitution du projet de thèse n'était pas quelque chose de compliqué. Mais moi, je suis dans un style d'encadrement que j'aime beaucoup, qui est de me laisser très libre sur ce que j'ai envie de faire dans ma thèse. Sauf que du coup, ça me met face à un grand vide qui est, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire? À force d'avoir lu et à force d'avoir des idées qui changent, c'est quoi ma thèse? Et donc, ça a été un long périple qui n'est pas fini, hein, parce que beaucoup de gens me font un retour comme quoi très souvent on redéfinit, on modifie. Mais c'est enfin la première pierre solide et claire de mon projet de thèse avec 4 axes, 5 études. Où j'ai déjà des idées en fait d'un espèce d'arbre de décision où je me dis oui, si j'ai pas le temps de faire l'étude 4, je pourrais le faire de cette manière, ou alors là, si ce sujet j'ai pas le temps de l'aborder, je pourrais l'aborder rapidement dans cette partie. En fait, j'ai dessiné, oui, mais en fait, j'ai écrit plutôt un cadre qui est clair et qui donne une feuille de route, mais je sais très bien et je devrais même peut-être écrire d'ailleurs. Quels sont les virages dans cette route et quels peuvent être les raccourcis? Parce que ce qu'on m'a conseillé, c'est que c'est intéressant de pas se dire, de pas réfléchir en nombre d'années de thèse, même si c'est la question que tout le monde me pose, il te reste combien de temps, mais plutôt en termes d'aboutissement d'une réflexion et de quelque chose de logique. En se disant, qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie de prouver? Essayer d'écrire ce que j'ai envie de prouver et ensuite. Qu'est-ce qui tient 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et on voit là où on peut s'arrêter pour que tu aies un bloc assez cohérent pour écrire une thèse. Et donc j'ai fait ça, j'ai plutôt écrit un projet de recherche dans lequel j'ai défini un moment où c'était satisfaisant pour écrire une thèse. Et donc, faut savoir que c'est, en tout cas pour ma part, avec toute mon expérience, c'est vraiment ma singularité dans ce parcours de thèse. C'était à la fois extrêmement dur et à la fois extrêmement salutaire, ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai enfin un cadre clair qu'il faut que je précise. Je sais où je veux aller. Et voilà, je voulais tout simplement vous partager ce moment dans la vie d'un chercheur, d'un espèce d'accouchement intellectuel de choses super complexes. Je sais pas comment le transmettre pour des gens qui n'ont pas vécu ça, mais j'ai un peu le sentiment que c'est comme si on avait un conflit, par exemple avec sa famille ou avec la personne avec laquelle on vit, et que il y a plein de choses qu'on aimerait dire et on ne sait pas vraiment comment s'y prendre, et qu'un jour on arrive soit à avoir la discussion parfaite où on transmet toutes nos idées, soit à écrire quelque chose. Moi, ça m'est déjà arrivé pour résoudre des conflits. Généralement, je n'envoie pas les lettres, mais d'écrire des lettres de mon côté pour synthétiser. Et quand imaginez quelque chose que ça fait des années qui traîne et de la réussir à envoyer le message, à écrire ou à avoir la discussion où vous avez enfin les idées claires sur ce que vous pensez. Il y a une sensation très agréable de relâchement et aussi très complexe intellectuellement. Je pense que ça pourrait s'apparenter à ça. Moi, je vois un espèce de. Il y a une métaphore que j'avais utilisée, non, que j'avais eue en tête justement, voilà, c'est inédit. La première fois que vous l'aurez entendu, c'est dans Bip Bip. En fait, j'ai le sentiment que ma manière d'avoir fait une thèse, donc c'est vraiment ma manière, c'est de apprendre beaucoup d'allumettes. C'est-à-dire que, imaginons qu'à chaque fois que j'apprends quelque chose sur la confiance, on me donne une allumette. Et donc, à force, soit je lis et je gagne une allumette, soit j'ai une nouvelle idée et je gagne une allumette. Et au fil du temps, au fil des années, je commence à avoir tout un tas d'allumettes. Et écrire un projet de thèse, c'est faire une tour Eiffel avec les allumettes. Donc, on a plein d'idées, les allumettes, on les a, disons que la colle aussi, on l'a. Et là, on nous dit, vas-y, fais un. On peut faire avec un château de cartes si vous voulez, mais je vais aller au bout. Fais une tour Eiffel avec ses allumettes. Allusion avec les châteaux de cartes. Imaginons qu'à chaque fois que j'apprends ou que j'ai une nouvelle idée de quelque chose sur la confiance, on me donne une carte. Et au bout d'un an où j'ai des centaines de cartes, on me dit, bah vas-y, fais un super château de cartes. Et en fait, l'effort est dans la construction, et dans la minutie, et dans la compréhension aussi, et la remise en mémoire de toutes les cartes ou de toutes les allumettes qu'on a pour monter quelque chose. Et donc, c'est quelque chose d'intense dans une vie, et qui, moi, m'a fait partir en état de flow, en état de surconcentration pendant 4 heures, où j'ai juste baissé la tête, j'ai rédigé, enfin, non, peut-être plutôt. Une fois 2 heures et une fois 4 heures, en ayant fait une pause. J'ai fini cette session d'écriture avec 6 pages, ultra théorique, ultra poussée, par rapport à ce que moi j'ai dans ma tête sur la confiance. Ça reprend un angle assez fondamental, donc qu'est-ce que la confiance entre deux personnes? Et essayer de améliorer les définitions de la confiance et des concepts qui sont autour, mais aussi potentiellement de développer un modèle théorique fondamental, ce qui est globalement un de mes rêves hein, de chercheur. Je pense que ça pourra toucher d'autres personnes qui font de la recherche, c'est développer un modèle et aller modifier ce que la science conçoit derrière un concept. C'est un petit peu le graal de la recherche, parce que la recherche, ça peut aussi être, par exemple, je sais ce que c'est la confiance et je vais voir comment la confiance entre deux personnes améliore la créativité. Alors que moi, j'essaye de redéfinir la confiance et le concept et les modèles associés à la confiance, ce qui est un pas un peu de côté. Et en fait, ça me fait faire de la recherche fondamentale. Et moi, je trouve ça extrêmement excitant. Donc, ça me satisfait et ça me motive énormément. Donc c'est une belle phase sur mon chemin vers la thèse qui se passe. Et ça mène vers un autre sujet que je voulais vous transmettre. C'est celui de est-ce que la flemme, j'ai une question à vous poser, est-ce que la flemme ne serait pas finalement l'expression d'un mal-être plutôt qu'une condition intrinsèque? Je m'explique. Ces derniers temps, depuis le retour de la Martinique, il y a des moments où il y a eu de la procrastination, il y a eu de la flemme, et sans savoir pourquoi. Et donc, j'avoue que par de vieux réflexes qui sont devenus mes meilleurs amis, il y a de l'auto-flagellation qui est venue. C'est-à-dire, ouais, je suis nul, j'arrive plus à être à fond, etc. Et en fait, bah, j'ai le sentiment que tout ça venait du fait que j'ai eu une phase que je vous ai expliquée d'essayer de revoir globalement où j'en étais dans mon activité, où j'en suis dans ma thèse, comment je peux faire un plan sur ces deux trucs. Et en fait, ça m'a mis dans une perspective d'incertitude, de manque de cadre, parce que j'étais en train de confectionner le cadre, ce qui rend super difficile en fait l'action, le fait de travailler sur un sujet alors qu'on ne sait pas où on va. Et donc, moi, malheureusement, je me le suis mis en disant, ça y est, je suis devenu flemmard, j'ai perdu l'habitude, je commence à gagner un peu d'argent, j'ai plus envie. Mais en fait, bah, je crois avoir compris que là, ma flemme de ces derniers temps, c'était plutôt une expression d'un mal-être, d'un manque de cadre, d'une incertitude. Et donc, ce que je peux vous transmettre, c'est potentiellement, quand vous avez du mal à vous lancer, je ne pense pas qu'il faut toujours le prendre comme une capacité intrinsèque, même s'il y a des capacités intrinsèques. Mais en tout cas, si vous êtes comme moi à avoir quand même tendance à savoir faire des choses dans la vie, où d'un coup, il y a un coup de mou. Je pense qu'il vaut mieux s'intéresser à la raison, essayer de chercher la raison d'un inconfort, plutôt que juste se dire qu'on est flemmard. En tout cas, moi, je vais essayer de garder cette idée en tête le jour où j'ai pas envie de me dire, mais pourquoi j'ai pas envie? Si j'ai pas envie, c'est sûrement que j'ai peur, ou que je suis perdu. Et du coup, la meilleure manière de répondre à ce sujet, c'est pas de procrastiner, c'est de réfléchir à ce à quoi j'ai peur. Ou en quoi je suis perdu, et de remédier à ça. Ce qui peut en plus aider beaucoup, par exemple, imaginons que vous avez, je ne sais pas si mon public sont des chercheurs ou des PhD, mais vous avez un projet, un dossier à écrire. Si vous n'arrivez pas à écrire ce dossier, au lieu de scroller sur TikTok et de rien faire parce que vous n'y arrivez pas, vous pouvez vous dire, je ne travaille pas sur le dossier. Par contre, je pense que c'est important de travailler sur qu'est-ce qui me fait peur. Ou c'est quoi le problème vis-à-vis de ce dossier? Et peut-être, en tout cas, c'est mon cas et c'est le sujet que je vais vous partager. Moi, c'était, en fait, je ne sais pas où aller. En fait, j'ai pas de cadre. En fait, c'est trop pour moi. En fait, j'ai besoin d'aide. Ou j'ai juste peur. J'ai peur que mon sujet n'ait aucun sens. J'ai peur de la page blanche, etc. Et du coup, on va travailler sur ça. Si j'ai peur de la page blanche, eh ben, je me pousse. Il y a des techniques d'auteur qui visent à écrire en continu pendant 5 minutes, même n'importe quoi. Donc, même appuyer sur des lettres au hasard, écrire des blagues et donc laisser y aller. Moi, aujourd'hui, j'ai quand même un outil formidable qui s'appelle ChatGPT pour être anti-page blanche. Donc, quand vous êtes expert de votre sujet, ChatGPT ne vous remplace pas encore. Du coup, vous pouvez, imaginons, moi je travaille sur la confiance, je peux dire, rédige un projet de thèse sur la confiance, blablabla. Je vais forcément pas être satisfait et je vais pouvoir incrémenter, adapter. Et donc là, vu que là, mon problème, c'était un problème de cadre, et bah, en fait, au lieu d'écrire des articles, qui est quelque chose que je procrastine sans le savoir depuis quelques semaines, et ben en fait, c'est pas écrire des articles qu'il fallait que je fasse, c'est rédiger un projet de thèse qui me fait comprendre à quel point ces articles sont cohérents et donc retrouver du sens. Voilà, je pense que je vous ai dit la plupart des choses. J'ai pas envie de me répéter. Déjà, je trouve que dans la première partie, je me suis un peu trop répété, mais c'est tout simplement les deux sujets. Donc en fait, la question de la flemme et potentiellement qui est un résultat de l'incertitude. Et le fait d'avoir rédigé ce projet de thèse et que ce soit un peu cathartique, ces sujets sont liés parce que justement, moi, c'était tellement un sujet, je pense, stressant, qui est ramené à des événements de ma vie très personnels, mais chargés en émotions, et qui finalement, c'est ce que je voulais, que j'étais bloqué et que j'avais le sentiment d'être flemmard, alors qu'en fait, c'était limite le point d'accroc. Ça me rappelle quand même que souvent, les choses que je n'ai pas envie de faire, et malheureusement, c'est des choses qui font grandir. Je ne sais pas si c'est les bonnes, mais elles font souvent grandir et elles m'apportent beaucoup. Généralement, quand on a peur, c'est quasiment là où il faut aller. Donc, leçon à moi-même de retenir ça. Pas tout le temps, je pense, mais à de multiples reprises, quand on finit par passer la peur. Ça fait du bien. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai résolu un petit peu cette énigme. Les solutions aussi des autres semaines ont fonctionné, c'est-à-dire que j'ai fixé un rendez-vous d'encadrement de thèse en disant je dois vous présenter mon projet, alors que je n'avais pas écrit mon projet de thèse, donc je me suis bloqué à devoir écrire quelque chose. Et quand j'ai commencé à comprendre qu'en fait j'avais vraiment besoin dans ma vie là d'avoir un cadre de où je vais dans ma thèse, et bah j'ai redoublé d'efforts malgré mon stress et malgré ma flemme. Je me suis dit c'est ça qu'il te faut maintenant, donc on travaille sur ça. Voilà. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vous souhaite une très bonne semaine et à lundi prochain pour un nouvel épisode de Bip Bip.